Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe à l'issue d'un Conseil européen extraordinaire. Il portait d'ailleurs beaucoup sur des questions internationales, les relations entre l'Union européenne et d'autres puissances, en particulier la Turquie. Il a aussi été question de relance économique en pleine pandémie de coronavirus. Voilà pourquoi nous avons choisi d'inviter aujourd'hui en duplex de Bruxelles à nous rejoindre le commissaire en charge de l'économie et des finances, l'Italien Paolo Gentiloni. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour. Alors, chez vous, en Italie, vous êtes souvent présenté comme l'homme tranquille dans la famille des sociaux-démocrates. Votre capacité à rassembler, à créer des compromis, a fait de vous le candidat idéal pour succéder à Matteo Renzi à la tête du gouvernement en 2016, après sa défaite à son référendum. Ensuite, en 2018, votre parti échoue aux élections. Giuseppe Conte du mouvement 5 étoiles prend la tête du gouvernement de coalition avec votre parti, et il propose donc votre nom à la Commission, au poste très très sensible de l'économie et des finances. Vous voilà chargé d'examiner les budgets des États membres, un contrôle toujours très redouté par les pays très endettés, ce qui est le cas de votre pays, l'Italie.
Alors l'Union européenne, monsieur le commissaire, a étonné un peu le monde en se mettant d'accord pour une fois sur un grand plan de relance à 750 milliards d'euros. Mais sa mise en œuvre semble patiner. Le temps presse pourtant. Est-ce que l'argent va bien être versé en janvier 2021 comme prévu ?
On est en train de travailler. Je dois dire que la présidence allemande, qui est maintenant la présidence de l'Union européenne pour ces 6 mois, est en train de travailler très fortement pour respecter le temps. Je suis confiant. Naturellement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, d'avoir une dette commune pour des objectifs de toute l'Union européenne. Et alors, ça va pas être quelque chose normal. C'est une chose extraordinaire, mais je suis confiant qu'on pourra approuver ces plans de relance à l'échéance qui est avril de l'année prochaine.
Alors, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et à un moment, le Conseil européen doit donner son accord. La Hongrie et la Pologne menacent d'opposer le veto au plan si le versement est conditionné au respect de l'état de droit, alors que l'Allemagne fait en ce moment une proposition qui est jugée d'ailleurs assez molle pour lier le versement des subventions de Bruxelles à la seule bonne gestion. Alors, est-ce que cette proposition allemande suffira à lever leur réticence? Vous pensez que vous allez pouvoir emporter leur adhésion au final?
Oui, ce que j'ai bien vu dans le mois qu'on a passé, c'est que les différences entre les pays européens sont là. Il y a beaucoup de discussions. Peut-être vous rappelez que la décision finale sur ces 750 milliards a été prise après 4 ou 5 jours de négociations infinies. Alors, les différences ne sont pas du tout cancellées, mais à la fin, le but est si important que je pense que la proposition allemande, par exemple, sur la rule of law, sur l'état de droit, est une proposition qui pourrait être renforcée à l'avis de la Commission, mais quand même, c'est une proposition qui a gagné la majorité entre les pays membres et qui, je pense, rendra possible d'avancer. D'ailleurs, l'état de droit n'est pas un optional dans l'Union européenne, c'est le 2e article de nos traités, c'est une des composantes essentielles de cet édifice.
Alors justement, un blocage pourrait venir du Parlement européen. Il reproche à ce plan de relance d'avoir été concédé par les plus frugaux des Européens au détriment d'un budget à plus long terme de l'Union européenne. Il demande en particulier une rallonge pour ce budget donc pluriannuel de 100 milliards d'euros, 10% du total. Il faut faire cet effort supplémentaire pour la période 2021-2027.
Bon, le Parlement demande toujours et justement, à mon avis, de renforcer le budget européen, parce que ce budget multiannuel, comme vous le savez, est un budget très limité. Cette année, on doit dire que ce bilan est extrêmement plus importante à cause de les 750 milliards qu'on a décidé pour le fonds de relance. Mais je comprends très bien le fait que le Parlement demande de renforcer certains programmes, particulièrement les programmes culturels, les programmes d'aide d'émergence, les programmes sociaux. Et je pense que, comme toujours, ce sera une négociation et on trouvera quelques compromis qui, naturellement, ne va pas changer les chiffres généraux de cet accord qui a été trouvé après 5 jours de négociations par les chefs d'État et de gouvernement. On changera quelques choses, mais on ne changera pas le total du plan.
Le total, c'est 750 milliards d'euros. Alors, bien sûr, il faut trouver l'argent. L'Union européenne va recourir à l'emprunt, mais aussi, elle se cherche de nouvelles ressources propres, c'est-à-dire de nouveaux impôts. Pour le moment, il y a pas mal de flou sur ces diverses taxations. Quand et comment la taxe plastique qui est envisagée va entrer en vigueur? Et puis, quelles sont les autres pistes?
Bon, vous avez bien dit que, avant tout, on va emprunter des centaines de milliards sur les marchés. En fait, on commence à le faire déjà dans ces semaines et c'est une première pour la Commission européenne. La Commission européenne va devenir, dans les prochaines 3 ou 4 années, un des premiers emprunteurs sur les marchés financiers. Et on a décidé de faire 30% de ce travail en green bonds.
Et je crois que
c'est très important. On verra sur les obligations vertes la Commission européenne comme le premier émetteur du monde. Et puis, on doit repayer cette dette entre 2026 et 2056. Alors, ce n'est pas demain, mais si on veut que cette extraordinaire opération de faire une dette en commun soit une opération de succès, on ne peut pas repayer en demandant à chaque État membre une contribution pour le repayer. Et il faut le repayer avec les ressources propres. La taxe sur les plastiques sera déjà là, mais on est en train de travailler sur de nouvelles pistes de travail, les plus importantes, les plus actuelles. Ce que la Commission proposera déjà dans le premier 6 mois de l'année prochaine, en particulier la taxation qu'on appelle le mécanisme sur les émissions de carbone, qui va protéger à nos frontières le fait qu'on est à l'avant-garde sur la transition climatique et qu'on a l'objectif d'émission neutrale à 2050, qu'on a haussé nos objectifs de réduction d'émissions pour 2030, toute cette ambition européenne ne peut pas se traduire dans l'affaiblissement de notre industrie. Et c'est pour ça qu'on aura un mécanisme à nos frontières pour éviter que des produits qui ont un taux d'émission de carbone très haut viennent nous faire une concurrence qui ne sera pas absolument acceptable. L'autre piste de travail, c'est le numérique.
Alors, bien sûr, chaque pays est en train, du coup, de peaufiner son plan de relance et vous êtes chargé, d'ailleurs, de les contrôler, comme vous continuez, d'ailleurs, à contrôler les budgets nationaux. Et pourtant, l'orthodoxie budgétaire a été mise entre parenthèses. Les règles du pacte de stabilité sont suspendues indéfiniment.
Non, pas indéfiniment. Ce qu'on a dit aux États membres il y a quelques jours, avec une lettre formelle de la Commission européenne, est que sûrement ces règles resteront suspendues pour toute l'année prochaine, le 2021. C'était important pour les pays qui sont en train de faire leur budget dans ces semaines d'avoir cette information. On aura cette suspension qui continuera sûrement l'année prochaine. Puis on discutera, j'imagine, le printemps de l'année prochaine, le moment dans lequel est la gradualité nécessaire pour retourner à des règles communes.
Paolo Gentiloni, dites-nous justement, la discussion, elle a un peu commencé là dans le public, parce que la France parle de l'abandon de la règle des 3%, elle veut passer à autre chose. En revanche, l'Allemagne, elle veut qu'on revienne à la rigueur. Est-ce qu'on peut revenir comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il faudra forcément aménager le dispositif qui gagne en souplesse?
Absolument, on peut pas revenir à ce qui était. On peut pas en général revenir à ce qui était. Aussi, dans notre modèle d'économie, il faut changer beaucoup de choses. On sait que on retournera pas au niveau de croissance qu'on avait à la fin de 2019 avant du début 2022. Et on aura cette année, en moyenne des pays de la zone euro, une dette de 102-104%. C'est la moyenne. Et ça vous dit que, naturellement, il faudra établir une méthode très graduelle et différenciée entre pays pour rejoindre nos règles communes. D'ailleurs, on avait une révision de ce pacte de stabilité et croissance qui était déjà commencé au mois de janvier cette année, avant la crise du Covid. Et alors, on va prendre cette révision et la discuter pendant toute l'année prochaine. Et je suis sûr qu'on arrivera à une application qui tient compte de la réalité.
Commissaire,
changer les traités européens, mais on ne peut pas ignorer la réalité de notre économie.
Monsieur le commissaire, alors vous serez heureux d'apprendre que à la fois votre pays, l'Italie, a été le premier touché par le coronavirus en Europe pour ce qui est de sa première vague, mais il semble aujourd'hui gérer la seconde vague beaucoup plus sereinement. On explique pourquoi avec ce reportage.
Des tests largement répandus et trois fois moins de résultats positifs qu'en France. Des lits en thérapie intensive encore libres dans les hôpitaux. En Italie, la situation est pour l'instant sous contrôle. Alors pourquoi ? La réponse est en partie dans la rue. Les Italiens portent le masque, même en plein air, et ils se sont éloignés les uns des autres. Pour ce médecin, spécialiste des maladies infectieuses, le Covid est ici pris très au sérieux.
Il y a une acceptation des règles inattendues de la part des citoyens. La maladie génère beaucoup de peur aussi bien chez les personnes âgées que chez les jeunes.
Selon les experts, près de 50 000 Italiens sont morts au printemps de la maladie, à l'hôpital ou chez eux. Le souvenir de cette période est resté très douloureux. Le gouvernement a ajouté des mesures assez claires. Midi à Rome. Dans les restaurants, masques, prise de température et souvent, déclaration d'identité.
À chaque table, chaque personne doit remplir une fiche avec nom, prénom, numéro de téléphone, de façon à ce que nous puissions les identifier en cas de besoin.
11 millions de masques ont été distribués gratuitement aux élèves à partir de 6 ans, en échange de l'obligation de les porter. Les jeunes sont considérés comme des vecteurs du virus, d'autant plus surveillés qu'ils vivent souvent avec les grands-parents sous le même toit. Le soir, dans les quartiers animés, comme ici dans le Trastevere, les attroupements sans masque sont sanctionnés d'une amende de 400 euros.
La police m'a informé que je devais mettre mon masque. C'est obligatoire ici, entre 18h et 6h du matin.
L'Italie se méfie de ses voisins, et notamment des Français, qui doivent présenter ici un test négatif de moins de 72 heures, ou alors accepter d'être contrôlés en Italie.
Paolo Gentiloni, votre pays s'en tire plutôt bien pour cette seconde vague, mais en attendant, les 27 continuent à définir des critères sanitaires, des règles de déplacement au niveau national, en l'absence de coordination. C'est catastrophique pour le transport aérien, pour le business en général. La Commission est incapable d'imposer un semblant d'harmonisation.
Je dois rejeter cette accusation parce que, écoutez, la Commission n'a malheureusement pas de pouvoir en matière de santé. Il y a une demande, et je me réjouis du fait qu'il y en a cette demande dans tous les pays, d'avoir un rôle majeur de la Commission et une coordination. Par exemple, c'est absolument ridicule que chacun pays décide les zones rouges, les zones oranges, les zones vertes. Et si on voyage, on se trouve avec des critères complètement différents. Moi, j'espère que cette demande d'avoir un rôle majeur de coordination de la Commission européenne sera transformée dans un vrai pouvoir de coordination que pour l'instant la Commission malheureusement n'a pas. En ce qui concerne mon pays, vous savez, l'Italie a eu un choc terrible en étant le premier entre les pays européens à être dans cette crise. Et ce qui est très important et aussi un peu surprenant, je dois dire, est le fait qu'on est habitué à avoir une idée qui est dans notre histoire, d'ailleurs, de la méfiance des Italiens envers leur État, les autorités, la discipline. Mais on a vu une situation complètement différente dans cette crise. On a eu un niveau de confiance dans les décisions publiques et sanitaires et de respect et de discipline pour nous vraiment très important. On doit naturellement maintenir le contrôle parce que on n'est pas absolument dehors de cette crise en Italie, comme en Allemagne, comme en France, comme en Espagne.
La Turquie et ses ingérences en Méditerranée étaient à l'ordre du jour de ce Conseil européen extraordinaire. C'était même une priorité. Et finalement, la Turquie, pour le moment, eh bien, elle échappe aux sanctions européennes. Elle en est juste menacée. Il faut dire que le président Erdogan avait eu la bonne idée de rétablir le dialogue quelques jours auparavant avec la Grèce. Les Européens tendent la main. Ils veulent même relancer l'union douanière si la Turquie cesse ses forages illégaux dans les eaux de Chypre. Alors, c'est plutôt la carotte que propose Bruxelles plutôt que le bâton. Est-ce que ça peut marcher avec un Erdogan toujours imprévisible et assez autocratique?
Mais je pense que le Conseil européen a premièrement voulu donner une chance à le dialogue qui est commencé. C'est pas encore un dialogue structuré, mais c'est quand même le fait que Ankara et Athènes se parle et qui est absolument nécessaire et important. Nous savons que le rôle de la Turquie s'est beaucoup renforcé dans les dernières années. On a vu le rôle que la Turquie a joué en Syrie, en Libye, que la Turquie est en train de jouer en Nagorno-Karabakh. Mais on peut pas accepter l'idée que cette croissance d'importance géopolitique de la Turquie se transforme dans des positions inacceptables dans la Méditerranée orientale et envers des États membres de l'Union européenne. Alors c'est un peu une stratégie avec deux jambes. D'un côté, on veut que le dialogue entre Turquie et Grèce peut avoir une chance, il faut lui donner une chance, mais de l'autre côté, c'est très clair que l'importance géopolitique de la Turquie ne l'autorise pas à faire deux choses dans la Méditerranée et envers des États membres de l'Union européenne qui ne sont pas acceptables. On jouera un peu avec ces deux jambes dans les prochaines semaines.
Plus de fermeté, en revanche, de ce Conseil européen sur la Biélorussie. Sanctions contre une quarantaine de responsables, sauf le président Alexandre Loukachenko, qui pourtant a falsifié l'élection présidentielle. On ne tape pas à la tête même du pays parce que quoi, on a peur de Vladimir Poutine, là encore?
Non, je ne crois pas. Je crois aussi sur la base de mon expérience comme ministre des Affaires étrangères et aussi Premier ministre que on a des règles européennes sur la politique étrangère qui nécessitent l'unanimité entre les pays membres. Et je dois dire que de temps en temps, je me demande si ces règles sont des règles qui peuvent survivre dans le monde si compliqué qu'on a dans les années 20 du nouveau siècle, parce que il faut toujours chercher l'unanimité, mais on peut pas être paralysé sur des choix si importants.
Paolo Gentiloni, donc inquiet sur l'avenir de l'Europe. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à tous de votre fidélité.
Merci à vous.